pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Ici, une ancienne réfugiée donne des cours de français à de nouveaux arrivants qu'on appelle maintenant des migrants. Dans une ZUP, à Nîmes, un jeune homme grandit dans une bande. Il passe des bêtises d'ado aux petits délits avant de changer de vie soudain pour devenir policier. Ailleurs, un juge au-delà de tout soupçon est arrêté pour trafic de drogue. Ici encore, un journaliste devient ministre, un autre conseiller en communication. À Dallas, en Amérique, une enseignante en sciences naturelles de 38 ans est renvoyée au motif qu'elle a tourné 15 ans auparavant des films à caractère pornographique. Elle fait appel de cette décision et se dit scandalisée qu'une telle chose se passe dans une école supposée enseigner l'émancipation aux femmes. Si des élèves apprennent que j'ai été punie pour quelque chose que j'ai fait il y a presque 20 ans, sur lequel je n'avais guère de contrôle, et que je me suis battue à ce moment-là pour m'en sortir, qu'est-ce que cela dit sur l'émancipation féminine, a-t-elle déclaré au Dallas Morning News. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, le thème c'est donc passer de l'autre côté, d'une frontière sociale, symbolique et géographique. Franchir le pas, ce sont deux histoires en France racontées par Judith Chétrit.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Mohamed. Donc il y a Simret, Mohamed Fadoul, Hussein, Suarez. Toufik, Adeli, Abdallah, Faisal, Simret et Osman. Can you remember what we learned last week, please?
Yes, yes.
Donc aujourd'hui, en classe, nous avons des hommes qui ont entre 20 et 30 ans, donc la moyenne d'âge est de 25 ans. Nous avons donc des hommes originaires d'Érythrée, d'Afghanistan et du Soudan. Donc ce sont des personnes qui étaient présentes à Calais. Et suite au démantèlement, donc, ils sont arrivés ici à Laval. Ce sont des personnes qui se sont déjà familiarisées avec le français, vu qu'à Calais, ils ont déjà, je pense, eu quelques cours de français. Et puis aussi, je pense, au niveau des relations avec les assistants sociaux, les intervenants sociaux. Donc, on essaye de trouver des exercices qui correspondent plus à leur niveau.
Tu comprends ce que tu
What do you wear? Vas-y. In French, regarde.
Oui.
Je porte un pantalon.
Chaussures.
Oui.
Pantalon.
Oui.
Je porte
un
blouson.
Un blouson.
Oui.
Je porte un blouson.
Oui.
Répète. Je porte un blouson.
Oui.
You can repeat.
Je porte un blouson.
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 Oui. Je porte. C'est fini.
C'est bien. C'est très bien.
Si je donne des cours de français aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, puisque je suis une ancienne réfugiée. Je suis passée par l'apprentissage de la langue, par le fait que ma famille, donc mes parents et puis toutes les autres personnes de la communauté bosniaque sont passées par là. C'est le moteur, donc la langue, qui a permis à mes parents aujourd'hui de s'intégrer comme tout le monde. Donc moi, je suis née en 90 précisément, donc la guerre en Bosnie a éclaté en 92. Donc en 92, on a fui notre maison, notre ville. J'ai été dans un camp de concentration avec ma maman et mon père aussi a été dans un camp de concentration, mais pour hommes exclusivement. Donc on a été séparés pendant presque un an. J'ai bénéficié donc d'une aide humanitaire avec ma maman pour arriver en France. En l'occurrence, là, c'était la Croix-Rouge qui nous avait proposé de venir en France parce que l'hiver arrivait et donc il n'y avait plus de denrées alimentaires, les maladies arrivaient, j'étais gravement malade également. Donc on est parti en bus jusqu'en Croatie parce qu'on avait de la famille qui nous ont en fait accueillis le temps d'une nuit parce qu'on avait un départ en bateau jusqu'en Italie. Et d'Italie, on est parti à Lyon. Et à Lyon, on nous a dit que une famille d'accueil nous attendait dans le nord-ouest de la France, en Ille-et-Vilaine. Sauf que nous, de toute façon, on ne connaît pas les départements. Donc, on est rentré dans les bus. Et Caroline et Didier, donc ma famille d'accueil, nous attendaient à Rennes. Et donc, c'était la nuit, il faisait froid, c'était l'hiver, ils nous attendaient dehors. L'arrivée était assez triste parce que ma mère, elle était dans une situation délicate. Si vous voulez, vous arrivez dans un pays à 2000 km de chez vous, vous connaissez personne. Il y a une famille d'accueil qui se propose, mais vous êtes dans la méfiance, évidemment. Enfin, vous vivez la guerre, c'est évident que vous vous méfiez, surtout si vous n'êtes pas chez vous. Donc, dans la voiture, ma maman, elle pleurait. On a été logés chez eux, nourris, épaulés. Et puis, on n'avait pas de nouvelles de mon père jusqu'au jour où maman a appris à la radio que mon père avait été libéré. Donc après, la famille d'accueil a tout fait, a appelé les institutions concernées pour faire venir mon père en France. Quand je pense à ma famille d'accueil qui s'est décarcassée, par exemple, à par exemple faire un tableau dans la cuisine avec le sujet, le verbe, le complément, les mots, les vêtements, enfin voilà. Quand je vois que eux, ils ont réussi, enfin, ils ont bien compris direct que ma mère, il fallait qu'elle apprenne la langue de cette façon, bah, ça donne que envie aujourd'hui de rendre en fait de la même façon ce qu'on nous a donné. Donc, on sait comment on dit je m'habille, tu t'habilles, il s'habille, nous nous habillons, vous vous habillez, il s'habille. On devait rester en Ille-et-Vilaine, mais il s'est avéré que plusieurs familles bosniaques se trouvaient dans la région. Donc les associations nous ont placés dans une petite ville de Mayenne, Sainte-Suzanne. Nous avons été placés dans des bungalows. Aujourd'hui, les migrants qui viennent de Calais ont également été placés dans la ville de Sainte-Suzanne, pas dans les bungalows, mais dans une structure, donc une ancienne maison de retraite qui a donc été habilitée pour accueillir les réfugiés de Calais.
Ok. Je porte, tu portes, il porte, nous portons, vous portez, il porte. I wear.
Quand je me suis proposée pour faire les cours de français, j'ai contacté la personne référente par mail. Je lui ai dit voilà, que je souhaitais donner des cours de français parce que je suis bosniaque et que je suis arrivée à Sainte-Suzanne il y a une vingtaine d'années. Et donc là, cette personne m'a dit « Mais oui, je sais, j'étais l'ancienne institutrice, j'avais quelques réfugiés de Sainte-Suzanne, quelques réfugiés bosniaques dans mon école. » Et donc, elle savait très bien qui j'étais, finalement. Après, donc, l'étape de Sainte-Suzanne, on a eu un appartement à Laval. Donc, j'ai été directement scolarisée à Laval, en maternelle. Puis après, bien évidemment, j'ai suivi le cursus scolaire normal, basique, comme tout le monde. Donc j'ai fait des études supérieures, j'ai fait un BTS, négociation relations clients. J'ai travaillé donc dans le commerce plusieurs années et j'ai déménagé un jour sur Rennes. Et on m'avait parlé donc d'interprétariat, de traduction. Donc un jour j'ai appelé la police aux frontières de Rennes pour leur proposer mes services en langue serbo-croate, donc s'ils avaient besoin, donc je me portais volontaire, parce qu'il faut savoir que mes parents ont toujours voulu entretenir notre langue maternelle, donc on parlait toujours le serbo-croate à la maison. 3 semaines après, la police aux frontières me propose donc de traduire une audition, et j'ai commencé en fait à prendre goût à tout ça et j'étais en pleine réflexion sur ma reconversion. Donc le commerce, j'ai fait le tour, j'étais plus du tout épanouie, il me fallait quelque chose où je pouvais tendre la main, hein, ou voilà. C'est vrai que là, à ce moment-là, je pense que mon passé arrivait à la porte, quoi. Frappait à la porte. Entre-temps, le tribunal de grande instance de Rennes m'a proposé d'être traductrice au service du code d'entrée et de séjour des étrangers. Donc ça touchait vraiment exactement ce que je souhaitais faire. Et puis ça correspondait totalement à mon histoire, en fait. Donc j'ai commencé à comprendre le cheminement juridique de toutes les personnes qui sont en situation irrégulière, de toutes les personnes qui cherchent à se réfugier en France, à demander l'asile. Donc je me suis dit dans ma tête, eh ben, pourquoi pas reprendre des études en droit. Donc l'ambition, c'était précisément de s'orienter sur une spécialisation donc en droit des étrangers, en droit des réfugiés et en donc droit d'asile finalement, puis aboutir sur le concours du barreau pour défendre les cas des réfugiés qui se font donc débouter de leur demande d'asile en fait. Je suis complètement passer de l'autre côté, en fait, si vous voulez, je me sens pas française qui aide les migrants. Enfin, si, au fond, je me sens française qui aide les migrants, mais moi, j'ai juste le petit plus, entre guillemets, qui fait que je l'ai vécu, que j'ai vécu les démarches administratives, que j'ai vécu, par exemple, voir mes parents traduire une feuille, je sais pas moi, de la sécurité sociale, de n'importe quelle institution, la traduire pour mes parents, leur expliquer, leur remplir des chèques, leur expliquer les papiers de la banque, enfin... Voilà, j'ai traduit, j'ai toujours été une épaule, en fait... Pour mes parents, je me sens avant tout ancienne réfugiée qui se doit d'aider le réfugié d'aujourd'hui.
France Culture, les pieds sur terre.
J'ai toujours porté un couteau sur moi. On a toujours porté des couteaux. On avait des couteaux dans les chaussures. Quand on grandit dans la rue, on s'attache souvent à cette arme-là. Elle est symbolique, elle est belle, on l'aime, et elle fait partie de notre vie. J'avais 11 ans quand nous sommes arrivés à la ZUB, à Nîmes. Alors la ZUB était en partie construite de logements HLM, mais aussi une petite partie qui était un peu résidentielle. Mais tout le monde était au même niveau, quoi. Tout le monde était, c'était pas des gens riches, c'était populaire. Donc on s'est retrouvés, tous les enfants de toutes ces familles, des familles bien entendu de Français, d'origine espagnole comme la mienne, d'origine italienne, d'origine portugaise, des pays du Maghreb, mais aussi des Réunionnais, des Antillais. Et après, on a connu, suite aux événements qui se sont déroulés dans leur pays, une arrivée d'Argentins et de Chiliens. On était tous mélangés, on était très bien, on s'entendait très bien. Et les parents ont vu leurs enfants grandir tous ensemble. Et c'est comme ça qu'est née, entre guillemets, la ZUB de Nîmes, dans la bonne entente, et que sont nés les bandes. Grandir dans un quartier comme celui-là, c'est aimer la rue. C'est un rassemblement d'enfants sur des dalles qui passent beaucoup plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur des domiciles. Voilà, donc notre enfance a été un grand terrain de jeu où les possibilités de faire des bêtises étaient énormes et où les limites à respecter étaient quasiment inexistantes. Donc, attendu que nous sommes tous arrivés au même moment dans un quartier qui est en construction, donc quand on est enfant déjà, tout ce qui est chantier, c'est trouver le jouet, les jouets idéaux pour pouvoir s'affronter, pour pouvoir se battre, entre guillemets, ou faire semblant de se battre, faire des guerres. Un peu la guerre des boutons. Passer le cap de 12-13 ans, on quitte l'innocence de l'enfance. Comme dans tous les quartiers où il y a des rassemblements de jeunes, et là, en l'occurrence, c'était des gros rassemblements de jeunes, puisque c'était des périodes une période de bande, et que la ville de Nîmes, comme sûrement d'autres villes en France, ont connu les grosses bandes que durant cette génération, c'est la génération des années 70, génération disco. Par exemple, la nôtre de bande, quand on a commencé à la créer, on était une vingtaine. Quand elle s'est disloquée, en 83, je crois que c'était, on était 160. Le moyen de transport était déjà hyper important. Le fait d'avoir de l'argent parce qu'il en fallait était aussi hyper important. On ne peut pas dire qu'on était des grands travailleurs. Donc il fallait bien trouver le pognon quelque part. Mais ça a été des combines en tout genre. Surtout portées sur le moyen de locomotion, sur les véhicules. Beaucoup de trafic, beaucoup de récupération de biens ou de matériel qui appartenait pas aux jeunes. C'est de l'emprunt, on va dire. Et puis de la revente, et puis c'est toutes les combines des quartiers, quoi, en clair. Mon rôle à moi était plutôt le rôle du GO, de Club Med, gentil organisateur. C'est-à-dire que j'étais le détecteur des fêtes, un des détecteurs, parce qu'on était un petit groupe. On était spécialisé dans notre bande à nous. Elle était fragmentée en plusieurs groupes, et moi je faisais partie du groupe organisation festivités, cérémonie. Pas cérémonie, je plaisante. C'est vrai que j'ai toujours eu ce côté-là, le côté d'aller chercher les bons plans, les endroits où il se passait des gros stuff et où on n'était même pas invité, mais où on s'invitait de force, la communication avec les patrons de boîtes, avec les patrons de débit de boissons. Quand on sortait, on essayait de se débrouiller à avoir aux alentours de 500 francs, ce qui était pas mal pour l'époque quand même. Donc après, quand on faisait une espèce de pot-pourri, qu'on mettait tout dedans, mais ça faisait quand même de belles sommes. Bien entendu, j'ai fréquenté de plus en plus le milieu de la nuit, avec tout ce que ça implique, avec des patrons de boîtes. On sait très bien que les patrons de boîtes ne sont pas toujours très clairs. On sait très bien que tout ce qui touche au milieu de la nuit n'est pas toujours très clean. On ne peut pas avoir fait partie d'une bande pendant pas mal d'années sans avoir fait de choses illégales. Voilà. Non, j'ai fait des boulots quand même. Bon, j'ai pas eu beaucoup de chance sur le côté travail, justement. Parce que les endroits où j'allais, j'étais pas qualifié. Donc, quand on n'est pas qualifié, forcément, on prend ce qui vient. Les endroits où aller, je me retrouvais souvent avec des gens qui venaient de la rue aussi, et qui étaient beaucoup plus élevés dans la hiérarchie de la délinquance, ce qu'on pourrait appeler le banditisme, et qui travaillaient dans des petites sociétés nîmoises, comme d'une fabrique d'huile ou de savon, qui se mettaient au vert. Donc à chaque fois que je trouvais un boulot, à chaque fois je me retrouvais confronté à ce genre de personnages qui me parlaient de leurs exploits et qui voulaient m'attirer encore plus dans le monde de la délinquance. C'est vrai que ce côté-là, moi, j'ai pas eu trop de bol, mais j'étais pas un mec sérieux. Donc tous les boulots où je suis passé, j'ai été viré à chaque fois. Et parfois, chasser le naturel revient au galop. Pour des réactions de voyous, quoi, en clair. Je me suis jamais fait prendre ni interpellé par la police, ni de garde à vue. Je courais très vite à l'époque déjà. J'ai beaucoup, comme mes frères d'armes de l'époque, j'ai beaucoup pris de coups. J'ai eu la tête ouverte plusieurs fois, j'ai eu pas mal de blessures liées aux bagarres. Mais avec les services de police, moi j'ai eu cette chance d'être passé au travers. Moi j'ai toujours dit, la police c'est notre adversaire, c'est pas notre ennemi. L'ennemi, on sait qu'il est à abattre. L'adversaire, il faut l'éviter, quoi. Il faut lutter contre lui, mais il n'est pas forcément à abattre. Nos ennemis, c'était les autres. C'est les autres bandes. On s'accrochait avec des gens de plus en plus dangereux, sans le savoir, parce que nous, de notre côté, c'était une impulsion naturelle, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude de se battre un peu partout, c'était toutes les semaines, c'était quasiment tous les week-ends, mais on croisait parfois le chemin de personnes pour qui la valeur de la vie ou le fait que le sang coule n'avait aucune importance, quoi. Et je pense quand même que, quand on n'est pas trop bête, prendre des coups, c'est bien. Saigner, ça fait bien. Mais bon, c'est pas ce qu'on recherche forcément dans la vie. Et c'est pas une finalité. C'est pas une finalité que de se dire qu'on peut perdre la vie en étant jeune et perdre la vie bêtement. À un certain moment, on a dû tous se poser la question de savoir si on voulait continuer à transgresser les lois, à devenir de vrais délinquants, d'être récupérés par des milieux comme le milieu nîmois ou le milieu marseillais. Le milieu marseillais qui est venu chercher beaucoup de gens chez nous, dans mon quartier, pour son armée, par exemple. Ou si, au contraire, on avait l'intention de faire quelque chose de notre vie. Et personnellement, moi, ça a été mon cas. J'ai dit souvent, les deux années avant de rentrer dans la police, que j'allais rentrer dans la police. J'aimais l'action, tout simplement. Et si j'ai fait partie d'une bande aussi longtemps, c'est parce que ça apporte une recherche d'adrénaline, de choses qu'on ne peut pas avoir quand on est un enfant sage. Quand on est quelqu'un de sage, de raisonnable, on ne vit pas ce que nous avons vécu, nous. Et en fin de compte, l'action, je l'ai poursuivie. Mon idée, c'était de la poursuivre dans un métier respectable. Ce qui fait qu'à l'âge de 22 ans, j'ai réouvert les livres de CM1 et de CM2, puisqu'à l'époque, c'était quand même pas un niveau extraordinaire, mais j'avais quand même un niveau supérieur à celui-ci, donc il fallait revenir sur du calcul mental de l'époque. Donc j'ai pas chouré. J'ai emprunté, mais ce coup-ci pour les rendre à ma petite nièce de l'époque, une de mes nièces, mais ses bouquins de l'école, pour pouvoir présenter le concours de gardien de la paix, que j'ai eu à la surprise générale, dont la mienne, au premier coup, et qui m'a permis d'intégrer la police nationale. L'école de police s'est très bien déroulée, parce que on fait énormément de sport dans une école de police. On apprend plein de choses qu'on ne sait pas. Moi, le droit pénal, je savais même pas que ça... Enfin, je savais que ça existait, mais... Donc ça m'intéressait aussi de savoir que certaines choses qu'on avait pu faire correspondaient à tant de peines ou de que c'était réprimandé de telle manière et que ça pouvait entraîner telle sanction. Après, l'esprit collectif, je l'avais déjà, puisque j'ai vécu quand même avec une bande quand même pendant pas mal d'années, 15 ans quasiment, où j'ai été surpris et un peu déçu. C'est de voir que le pourcentage de gens comme moi était très faible. Alors que je pensais que la police était en partie composée de gars et peut-être de filles, mes fils sont arrivés plus tard, qui venaient de la rue. Donc qui avaient connu la délinquance, qui avaient fréquenté les cités, qui connaissaient bien le trottoir et tous ces méfaits. Donc ça, j'ai été très déçu. J'ai été très déçu de en fin de compte, de voir qu'il y avait plein de gens... je ne vais pas dire ordinaire, parce que ça ne se dit pas, nous on est aussi ordinaires que les autres, et qui avait eu une jeunesse sage, quoi. Si déjà on n'avait rien connu auparavant, en fin de compte on va avoir l'attitude d'un individu qui a été façonné, qui a été habillé pour faire un métier. Et ma réelle motivation en intégrant la police nationale, je ne suis pas rentré par vocation, mais par contre je l'ai trouvé dedans, la vocation. C'est la chose qui m'a marqué le plus pendant que j'étais jeune, c'est de voir deux personnes que je connaissais crever d'une consommation d'une substance illicite qui s'appelle l'héroïne. Et quand je suis rentré dans la police nationale, à l'école de police, je me suis renseigné pour savoir quel était l'endroit où cette substance-là se trouvait. Et à l'époque... Il s'avère qu'elle se trouvait dans un arrondissement de Paris, qui est le 18e arrondissement, qui baignait dans l'héroïne. Donc, en fin de compte, j'ai choisi ma destination professionnelle en fonction de cette substance-là. Et j'ai tout, et toute ma vie professionnelle, je l'ai passée à la chercher, à détecter, pas qu'elle, hein, entre parenthèses, après, par la suite. Mais à la base, c'est l'héroïne qui a guidé mes pas policiers. Mais en fin de compte, j'ai vécu 30 ans que pour cette matière-là, pour tout ce qui touche à ce monde qui est pourtant très glauque, très sournois, très fourbe, très violent. où la franchise n'existe pas, où la manipulation est omniprésente. Je parle d'une manière, je sais que ceux de la rue, quand je parle avec quelqu'un, ils savent que je suis de la rue. Dans le milieu professionnel, il y a des policiers qui ne parlent pas de cette façon-là, qui restent des policiers. Mais moi, le sens que j'ai donné à ma vie professionnelle, c'est de toujours être et appartenir, parce que c'est une appartenance aussi, appartenir à la rue et fonctionner avec elle, et ne pas vivre sans elle, être tout le temps à son contact et de pouvoir aider, je pense, le mieux possible les autres.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. 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 Images of broken light which dance before me like a million eyes and call me on and on across the universe. That's me and the light.
Aujourd'hui encore, c'était Pieds sur Terre, passé de l'autre côté, deux histoires racontées par Judith Chétrit et réalisées par Marie Placet. Merci à Raphaël Myréal et à Nerma Cernic. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Melville Letellier et Jeanne Boézek, ce sont nos stagiaires. Voilà, en ce moment, nous en avons deux. Vos réactions, vos commentaires, vos partages, vos idées, vos likes, vos retweets, c'est sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, un compte Twitter qui vous attendent avec impatience. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller sur une appli, par exemple Podcast Addict, sur les téléphones dits Android ou bien sur Podcast tout court sur iPhone.